n'ai jamais joué rugby dans ta vie. Ferme ta gueule.
Bonjour à vous. Bienvenue dans ce quatrième hors-série de 15 bras, 15 jambes. Ensemble, nous allons voir cette fois, pas l'actualité du rugby à 15, mais l'actualité toute récente du rugby à 7. Donc nous allons parler de l'historique de ce sport, et surtout nous allons faire un petit topo rapide sur le tournoi des Jeux Olympiques de Rio. Voilà. Donc eh ben, on commence tout de suite.
Depuis le début.
Donc nous allons commencer par un petit historique du rugby à 7. Alors vous retrouverez comme d'habitude tous les liens dans le document qui suit ce podcast. Voilà. Donc le rugby à 7 a été créé juste après le rugby à 15. Vous savez que à l'époque les règles n'étaient pas définies et ainsi de suite, ce qui a permis ben, du coup invention du foot, rugby à 15, rugby à 13, et donc rugby à 7, parce que personne ne voulait arriver à s'entendre sur le nombre de personnes, et donc et comme ils jouaient un peu tout et n'importe comment, ça s'est fait comme ça. Donc voilà à peu près. Donc ça a été créé dans les 1800, alors c'est 85. Après, comme d'habitude, on a le sport a plutôt bien marché jusqu'aux années 20 et années 30 avant de tomber dans l'oubli, voilà. Et on l'a retrouvé juste après. Alors le premier tournoi officiel se déroule en 1973 pour la célébration du centenaire de la Fédération écossaise de rugby à 15. On verra que du coup le sport a été relancé dans l'un des plus gros tournois de rugby à 7 qui existe encore, donc c'est le tournoi de Hong Kong. Et après, voilà, dans les années 90, le format a évolué, jusqu'à par retrouver ben, tout ce qu'on appelle World Series, etc. Donc voilà. Pour le rugby à 7, c'est pas, il y a pas que ça. Voilà, donc en 93, on avait la première Coupe du Monde, et en 2018. La Coupe du Monde continue malgré les Jeux de Rio, donc ça sera un peu comme le foot, donc il y aura le tournoi olympique et la Coupe du Monde, ce qui sont deux choses complètement différentes. Et la prochaine Coupe du Monde se passe donc en 2018 aux États-Unis. Après, donc maintenant, je vais parler du sport en lui-même, donc le rugby à 7 se joue forcément à 7, c'est très logique, et on a droit à 5 remplaçants. Et 3 remplacements possibles. Ce jeu permet d'avoir plus d'espace parce qu'on couvre le même terrain que sur un terrain de rugby à 15 classique. Donc on est à peu près, on a 8 joueurs de moins dans chaque équipe. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et donc forcément, si on a 8 joueurs à moins, il y a certains postes qui sautent. Donc on se retrouve avec 2 piliers, le 1 et le 3, un talonneur numéro 2, un demi de mêlée, un ouvreur, un centre et un seul ailier. Voilà. Donc on double plus la plupart des postes sauf les piliers, pas de troisième ligne du coup, pas de seconde ligne, pas de deuxième ligne non plus, et pas d'arrière. Après, sur le terrain, vous verrez aussi, j'ai mis un article. On voit que certains postes sont n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions que dans le rugby à 15. Donc le demi de mêlée est aussi beaucoup plus détaché, il joue aussi presque libéro, c'est-à-dire qu'il couvre dans les phases de défense, c'est lui qui couvre l'arrière du terrain, l'ailier restant intercollé dans la ligne et dans la défense, idem pour le centre. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui changent. Bah pareil, c'est pareil au niveau des gabarits. Les piliers c'est pas des gros. Donc de suite, et pareil pour les talonneurs, c'est pareil. Bon, c'est quand même des joueurs plus massifs que les autres. Ils sont quand même plus mastoc. Ça se voit dans des équipes comme l'Afrique du Sud. Voilà. Alors, c'est des joueurs où les joueurs de devant sont des joueurs plus massifs, mais on voit que c'est pas du tout les mêmes gabarits. Donc par exemple, Pierre-Gilles Lacafia, qui jouait Albi, Toulouse et Castres, qui joue au poste d'ailier, se retrouve pilier à 7. Parce qu'on veut des joueurs un peu plus. Qui bougent un peu plus. Voilà. Et que dire aussi. Donc voilà, du coup, les phases de conquête sont beaucoup plus réduites, les phases statiques plutôt. Donc les mêlées se jouent à 3, avec le demi de mêlée pour introduire. Les touches, c'est pareil, c'est généralement de 2 à 4 joueurs à peu près. Et c'est le demi de mêlée qui introduit, enfin qui lance la balle du moins. Après, par rapport aux règles, parce qu'il y a aussi quelques changements, donc du coup, c'est des matchs de 7 à 10 minutes avec 2 minutes de, 1 ou 2 minutes de pause, ça dépend aussi, voilà. Ou aussi 1 ou 2 minutes de pause, ça dépend. Donc les 10 minutes, c'est souvent pour les finales, forcément. Et on a des prolongations, et c'est 5 minutes, et je crois que ça se joue au point en or, donc le premier qui marque gagne, je crois, si ma mémoire est bonne. Ça s'est passé d'ailleurs pendant le tournoi de Rio, mais j'ai pas vu tous les matchs, parce que déjà d'une, ils les ont pas tous diffusés, enfin, sur France Télévisions, voilà. Sinon, sur Canal, je crois que d'entre les deux, on arrive à se débrouiller pour tout voir. Mais sinon, non, il n'y avait pas, pas tous les matchs. Bon. Bref. Donc c'était pour le score, pour la durée. Après, on a les transformations c'est que par drop goal. Voilà, donc on pose pas le tee et on passe pas à 130 temps pour taper dans le ballon. Et après, les remises en jeu aussi, c'est pas l'adversaire qui le joue. C'est l'équipe qui a marqué qui rejoue le ballon. Voilà. Directement. Après, bon, il n'y a pas 150, 1 million de choses qui changent. J'ai fait pas mal de liens. Qu'est-ce que j'ai mis? Si, alors que je sais plus où c'est. J'ai deux fois le même article. Si, alors du coup, si au niveau de l'arbitrage, ils sont plus stricts au niveau des phases au sol, parce qu'ils veulent que le ballon soit évacué rapidement. Ils sont aussi plus sympathiques sur les en avant, donc les passes très au cordeau, voire même légèrement en avant, sont acceptées. Après, ils sont quand même un peu plus stricts sur les matchs de phase finale. Hein. Moi, je l'ai vu pendant la Coupe du Monde, ils sont un peu plus réglo là-dessus. Il y a un peu plus d'arbitres. Du coup, les cartons jaunes ne durent que 2 minutes. Si durait 10 minutes, le gain n'aurait plus. Ce qui est assez drôle. Pardon, écoutez, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Les bras cassés se jouent au niveau du centre du terrain et plus au niveau de la faute. Enfin, au niveau de la faute, mais au milieu du terrain. Et les avantages aussi sont beaucoup plus réduits, donc on n'attend pas comme il y a plus d'espace, c'est pour forcer un peu plus à jouer et ainsi de suite. Donc voilà, à peu près, voilà tout ce que j'avais à dire à peu près pour le jeu lui-même. Après, les débats. Aux différences par rapport à 7, donc pareil, j'ai mis un article. Pourquoi le rugby à 7 est le sport collectif le plus éprouvant au monde? Donc en termes de distance parcourue à mètres par minute. Alors je crois que c'est à peu près par rapport à tous les joueurs, parce que j'ai pas bien compris. Alors 7 joueurs, hein, non, 7, il passe son temps à cavaler, à ça oui, on dirait pas le contraire. Donc ils font 130 mètres par minute, voilà. Donc ce qui est légèrement plus que le foot avec 120, ce qui est légèrement moins que le foot australien, où là pareil, ça cavale dans tous les sens, mais c'est toujours beaucoup plus que le rugby à 15, où c'est 90 mètres par minute, sachant que je connais des joueurs, ça doit être approximativement ce score sur toute la saison. Oui, à part ça. Bon, après, voilà, pareil, il y a quand même du combat, même si on en pense qu'il ne se passe pas grand-chose. Quand on voit jouer les Fidjiens, eh ben, on voit que c'est des joueurs qui aiment bien jouer, qui aiment se mettre des gros rentrons aussi. Ça les fait bien marrer. Donc, c'est pareil, voilà, donc vous pouvez voir les articles et tout. Donc, après, j'ai les chiffres à retenir du World 7 2016. Donc, c'était par rapport à la saison qui vient de se passer juste avant la Coupe du Monde. Donc, j'ai. Avec 181 points au classement général, les Fidjiens ont remporté pour la troisième fois de leur histoire les World 7 Series. Donc je crois que c'est plusieurs tournois qui se passent sur. Ah oui, voilà, c'est ça. Au terme des 10 étapes disputées. Ce titre en 2016 fait suite à ceux de 2015 et 2016. Voilà, donc c'était juste pour. Voilà, il y a open score, il y a. Par exemple, il y a Sebelo Sanatla, qui était d'ailleurs blessé pour la Coupe de Rio, il n'a pas pu y participer. Joueur sud-africain, donc qui a marqué 66 essais en 10 étapes. Après, on a le joueur qui a inscrit le plus de points, c'est Madison Hughes. Donc, ça doit être c'est un ouvreur parce qu'il a fait 331 points. soit un point de plus que donc, comment il s'appelle, je n'ai plus le nom en tête, ah oui voilà, Senalta, que Senalta, donc le sud-africain, qui a fait 30 points, pardon. Et sur 10 étapes, il y a eu 2622 essais, ce qui est plus que 1 milliard d'années de rugby à 15, et à peu près 1 milliard d'années de plus que des équipes qui jouent pas. Donc je ne veux pas citer de nom, parce qu'il y en a tellement plein des équipes qui jouent pas, que voilà. Même si des équipes n'ont pas de supporters, alors c'est encore plus drôle. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis plein de... plein de trucs à droite à gauche, donc je vous laisse regarder ce sport. Moi c'est un sport que j'ai beaucoup apprécié, que j'appréciais déjà parce que je m'étais déjà penché dessus il y a quelques années, et là j'y suis revenu parce que sur Albi, là où j'habite, il y a eu un tournoi, il y a eu les tournois même nationaux de rugby à 7, donc je vais vous donner les résultats. Donc alors, championnat de France élite masculine, donc c'est les Seven Blues qui ont gagné. Alors vous verrez que des fois les scores sont épais, quoi. Donc c'est les Blue Seven qui ont gagné 24 à 5 contre les Minots de Provence. Classement final, donc Blue Seven, Minots de Provence et Free Seven Bassins. Voilà. On retrouve pas mal aussi, il y a Île-de-France, Massy, donc on retrouve pas mal l'équipe du Nord aussi qui joue pas. Je joue bien mon rugby à 7. Après, championnat de France élite féminine, donc le LMRC Villeneuve-d'Ascq, donc c'est Lille contre Bobigny, qui, alors, donc c'est les deux champions des deux dernières années, si ma mémoire est bonne. 41 à 12, finale contre West et contre Bobigny, donc Lille a gagné en prenant un carton rouge et un carton jaune. Faut le faire quand même. Après, donc championnat de France fédérale masculine, avec Blagnac champion, voilà, donc le SSC Blagnac Rugby 42 et le PUC 7. Après, fédérale féminine, Rouen, ça c'est un peu plus serré, donc c'était Rouen Université Club 28, Stade Français 17, et le tournoi territorial masculin, donc UA Mimizan, 29 à 7 contre Tuir. Donc moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit week-end, parce que là j'y ai passé deux jours. Moi j'ai trouvé ça très sympathique. Bon, il y a encore des territoires où ça joue, enfin ça joue pas le jeu. Ça dépend comme d'habitude, ça dépend avec les années. Voilà, je pense que ça va prendre de l'importance parce que ça, c'est quand même un sport très intéressant. Mais j'ai vu voilà certains territoires où ça n'avait pas trop joué le jeu. J'ai vu que normalement ils devaient passer par des sélections pour arriver à lui. Certains ils étaient deux sur leur territoire, donc ils ont été qualifiés d'office, quoi. Et puis souvent, comme ça sert de déplacement de fin d'année, autant dire, certaines équipes, les types, ils étaient plus à l'apéro et au bistrot qu'au... Mais c'est très rugby, ça, c'est pas grave. Ils étaient plus à l'apéro qu'autre chose. Mais bon, on avait quand même vu du spectacle. Moi, j'ai vu des équipes qui avaient un gros, gros, gros niveau. Voilà, ça s'est vu sur les finales. Il y avait des fois, on a l'impression qu'il y avait deux catégories d'écart entre les équipes. Alors pourtant, qu'elles étaient à peu près, elles étaient au même niveau en termes de... Voilà, de classement. Mais voilà, pas mal de... Moi, je pense que c'est un sport qui peut énormément progresser. On va le voir après avec la suite des trucs, mais du podcast, pardon. Mais on va voir que y a pas mal de choses qui peuvent évoluer, quoi. Donc, eh bien, écoutez, après avoir fait ce rapide résumé du rugby à 7 et avoir essayé de vous le faire découvrir, donc, comme d'habitude, je vous invite à voir les liens qui sont dans le podcast. Ça vous permettra de faire un historique et de voir à peu près comment ça évolue. Donc maintenant, on va passer aux résultats du rugby à 7 à Rio.
Incroyable.
Pour cette partie des Jeux Olympiques de Rio rugby à 7, nous allons commencer par les féminines qui ont ouvert le bal. Donc ça s'est passé du 7 au 8 août 2016. Il y avait 12 nations pour 34 matchs joués. Alors, par rapport aux phases qualificatives, on avait donc le Brésil, pays organisateur qualifié d'office. On avait les résultats des Women 7 Series 2014-2015, qui étaient qualificatifs. Donc on avait l'Australie, le Canada, la Grande-Bretagne, donc là c'était l'Angleterre qui a fait, je crois, encore une fois, le gros du boulot, et la Nouvelle-Zélande. Le championnat d'Amérique du Sud 2015 avec la Colombie, le championnat Amérique du Nord avec les États-Unis, le championnat d'Europe 2015 avec la France, le championnat d'Afrique avec le Kenya, le championnat d'Océanie avec les Fidji, le championnat d'Asie avec le Japon et le tournoi olympique qualificatif qui a permis la qualification un mois avant l'événement de l'Espagne. Donc on avait 12 équipes. Alors ces 12 équipes étaient réparties après en 3 poules, 3 poules de 4. Donc Australie, États-Unis, Fidji, Colombie pour la poule A. Pour la poule B, on avait Nouvelle-Zélande, France, Espagne, Kenya. Pour la poule C, on avait Canada, Grande-Bretagne, Brésil et Japon. Maintenant, après, donc les résultats pour la poule A, c'était Australie premier avec deux victoires, une défaite, un nul, pardon. Les Fidji avec étaient secondes avec deux victoires, une défaite. Les États-Unis un partout, dont une victoire, un nul, une défaite. Et la Colombie, trois défaites. Les goals average, donc 89, 5, 43 et moins 137 pour la Colombie. Donc, premier match, États-Unis 7, Fidji 12, Australie 53, Colombie 0, États-Unis 48, Colombie 0, Australie 36, Fidji 0, Fidji 36, Colombie 0 et États-Unis, Australie, États-Unis 12. Voilà. Après, pour la poule B, on avait la Nouvelle-Zélande premier avec 3 victoires, la France deuxième donc avec 2 victoires, une défaite, Espagne une victoire, deux défaites et le Kenya 3 défaites. Goal average 4 de 97, 31, moins 34 et moins 94. La France a battu l'Espagne sur le score de 24 à 7. La Nouvelle-Zélande a fait de même contre le Kenya 52 à 0. La France 40, Kenya 7. Nouvelle-Zélande 7, 31, pardon. Espagne 5. Espagne 19, Kenya 10. Et la Nouvelle-Zélande 27 à 7 contre la France. Poule C, donc on avait les premières, Grande-Bretagne, pardon, avec 3 victoires. Juste derrière, le Canada, 2 victoires, une défaite. Le Brésil, une victoire, deux défaites. Et le Japon, 3 défaites. Ce qui nous fait, après, en termes de goal average, 88, 61, moins 64 et moins 101. Et, oula, ils sont plus chiches, là, les résultats. Donc, Grande-Bretagne, 29 à 3 contre le Brésil, 45 à 0 entre le Canada et le Japon. La Grande-Bretagne a mis 40 à 0 au Japon. Le Canada a mis 38 à 0 au Brésil. On voit qu'il y a beaucoup de 0 hein, quand même. 26 à 10 entre le Brésil et le Japon. Donc hein, le Brésil arrive à battre le Japon. Et Canada, Grande-Bretagne, 0 à 22. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Alors on voit qu'il y a un certain. On verra pour les hommes, c'est à peu près le même symptôme, je crois. Je suis bien sûr à 100%. On voit qu'il y a un certain gap entre certaines équipes. Faut pas se cacher. On a ben souvent les équipes qui finissent première ou seconde. Voilà, c'est des équipes qui sont habituées à rouler un petit peu. L'Australie, ça roule bien. Les Fidji, ça va. Les États-Unis, à peu près pareil. La Colombie, bon, voilà, ils sont qualifiés. On sentait qu'ils revenaient de loin. Nouvelle-Zélande, bon, c'est habitué vraiment à rouler aussi. La France, ça a bien progressé. Chez les femmes, il y a eu pas mal énormément de progrès. L'Espagne aussi, chez les féminines, c'est une belle équipe. Surtout Patricia Garcia, j'ai l'impression qu'elle fait tout. Le Kenya, pareil, chez les filles, ils reviennent de loin. La Grande-Bretagne, c'est pareil, ça roule bien. Le Canada, bien aussi. Le Brésil et le Japon aussi, voilà, c'est plus des petites équipes chez les féminines, quoi. Après, donc on a les phases finales, parce que alors, vous savez, ça se passe en trois étapes, donc le rugby à 7 pour les classements. Donc on a la poule principale où, voilà, pour arriver jusqu'à la vraie finale. Après, on a le. Comment ça s'appelle? J'ai vu le nom, après ça m'a fait rigoler. J'ai bien rigolé. Est-ce que je l'ai vu ça? C'est le bowl ou je sais pas quoi, je sais plus. Donc le ball, c'est le quand t'es vraiment dernier de chez dernier, et après c'est le pile ou je sais pas combien, c'est un nom un peu bizarre. C'est les matchs, bah, c'est le match entre les équipes, c'est les, pour les niveaux intermédiaires, quoi. C'est pour ceux qui perdent en quart de finale, après ils ont les pour les matchs de classement, quoi. Donc après c'est simple. Donc on a eu comme quart de finale Australie-Espagne 24-0. Canada-France 15-5, Grande-Bretagne-Fidji 26-7 et Nouvelle-Zélande-États-Unis 5-0. En demi, on a eu donc Australie-Canada 17-5, Grande-Bretagne-Nouvelle-Zélande 7-25. Et petite médaille pour donc petite finale, donc mais là cette fois-ci pour la médaille de bronze, Canada Grande-Bretagne 33-10 avec Ghislaine Landry à balle et récital de l'Australie quand même, parce que le score est joli et flatteur quand même pour la Nouvelle-Zélande, 24-17, donc Australie Nouvelle-Zélande 24-17, voilà. Donc ce tournoi olympique, il y a deux trois équipes qui ont fait vraiment forte impression à mon humble avis. Donc c'est le bon, pour moi c'est le Canada qui a fait qui est une belle équipe, donc elle joue un peu rude je trouve à mon avis, elle manque encore un peu de ça manque encore un peu de circulation dans le ballon, mais c'est une équipe qui est sur qui est solide et qui est bien placée. La Nouvelle-Zélande aussi ça joue assez costaud, mais ça déplace un petit peu plus le ballon du fait des qualités qu'on connaît très bien des joueurs néo-zélandais. Donc c'est des joueurs qui font très bien circuler le ballon. Et après, voilà, l'Australie qui est quand même un lot au-dessus. Donc c'est des joueuses pas forcément... elles jouent pas trop, elles jouent pas trop combat, etc. Elles jouent plus sur la circulation des ballons, prise d'intervalle, etc. Là voilà, pour moi c'est vraiment un jeu au-dessus. Ils ont Charlotte Kayslitz, qui ma mémoire est bonne, donc 21 ans, qui déplace le ballon. J'ai rarement vu quelqu'un déplacer le ballon avec, avec autant de talent, donc c'est passe dans le dos, toujours le geste juste, c'est assez impressionnant. Et du coup, alors, l'équipe d'Australie, pareil, c'est une équipe hyper jeune, donc je pense qu'ils sont partis pour rouler. Bien 5-6 ans avec une équipe comme ça, s'ils se débrouillent bien, voilà, ils peuvent aller loin. La Nouvelle-Zélande, c'est une équipe légèrement un petit peu plus âgée, et on a vu que bon, après, ils sortaient, je crois que la Nouvelle-Zélande, ils sortaient pas d'un gros ils ont bien dominé les années précédentes, mais cette année c'était moins bien, pareil pour les masculins, quand tu y reviendras après, c'est un peu compliqué quoi. Donc on verra avec les années. La France a aussi, j'y reviendrai, pas mal de progression à faire. Après on a le mal très français, dès qu'on arrive au match couperet, soit on fout des quignons, soit on se prend des quignons. Donc bon, forcément, bah, ce qui devait arriver arriva. On s'est fait cogner par le Canada, alors que le terme de jeu, c'était un peu kiff-kiff, quoi. Je trouve, je pense que si on avait voulu élever notre niveau de jeu, on aurait pu les battre. Parce que dès qu'on déplace le ballon, les Canadiens, elles ont du mal, quoi. Donc, après, c'était pour la cinquième place, on a eu France, Espagne-France 12-24, et Fidji-États-Unis 7-12, et la France s'est fait quignonner par les États-Unis 5-19. En fait, on s'est fait trouer à chaque... du coup, comme on récupère le... Les États-Unis ont commencé à marquer des essais, et comme on était... d'un niveau excessivement exécrable sous les ballons hauts, à chaque renvoi, ben on s'est fait pris plein la gueule. Donc États-Unis 5e. Et pour la 7e place, on avait Espagne-Fidji, pareil, il n'y a pas eu photo, 21-7 pour l'Espagne. Voilà. Pour la 9e place, on avait Brésil-Colombie et Kenya-Japon, donc... Le Brésil 24-0 contre la Colombie et le Kenya 0-24 contre le Japon. Et le Brésil a bien dominé le Japon 33-5 et Colombie-Kenya 10-22. Voilà. Donc pour le classement final, on avait médaille d'or Australie, médaille d'argent Nouvelle-Zélande, Canada médaille de bronze et ensuite Grande-Bretagne, États-Unis, France, Espagne, Fidji, Brésil, Japon, Kenya et Colombie. Voilà. Moi j'ai pas vu. Alors ça c'est pareil, c'est une c'est une je trouve pas le bon mot, c'est une constante, voilà. C'est comme il y a beaucoup d'espace en rugby à 7, du coup on a un jeu, et comme le format de temps est très court, on a un jeu qui est hyper speed. C'est même plus speed que certains matchs de handball qui sont déjà hyper speed, je trouve. Du coup, pas mal d'équipes ont des, même les équipes les plus faibles, on voit un projet de jeu derrière. Ouais, c'est ça qui est intéressant. On sent que sur les fondamentaux, des fois, c'est pas ça. Ils ont pas des passes terribles. Moi, je me rappelle avoir vu Espagne-Fidji pour les phases qualificatives à Clermont. J'avais bien rigolé parce que ça faisait des passes de maçon, c'était horrible à voir. Mais on sent quand même qu'il y a un projet de jeu. Voilà, on sent que les équipes étaient claquées. Là, franchement, sur ce tournoi-là, j'ai vu que c'était du meilleur jeu. C'était plus joli à voir. Bon, après, il y a des équipes un peu plus rentrent dedans. Je parlerai Canada, Grande-Bretagne, un peu entre les deux, et les États-Unis, c'est des équipes où ça joue rude, quand même. Après, il y a pas mal d'équipes qui essaient de déplacer le ballon. Ben, la France essaie de déplacer le ballon. La Nouvelle-Zélande, c'est du jeu un peu hybride encore. Mais moins rentre dedans. Et l'Australie, voilà, c'est des équipes où on bouge beaucoup le ballon. Maintenant, ben, on va passer au masculin. Dans les masculins, hop, je remonte, excusez-moi. Ça s'est passé, eux, du 9 au 11, pareil, 12 nations et 34 matchs joués. Donc, on avait donc qualifié le Brésil, voilà, en tant que pays hôte, après des 7 World Series 2014-2015. On avait donc l'Afrique du Sud, les Fidji, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Après, on avait championnat d'Amérique du Sud, Argentine, championnat d'Amérique du Nord, États-Unis. On avait les 7 Grand Prix, le 7 Grand Prix Series 2015. Voilà, la France, championnat d'Asie. Japon, qui a du mal, je crois, avec le Kazakhstan, ou je sais plus si c'est les féminines. Championnat d'Océanie, l'Australie, quand même, qui, vous voyez, eux reviennent aussi de loin, qui ont plus de difficultés. Les championnats d'Afrique, le Kenya, et encore une fois, le tournoi qualificatif. Et on avait l'Espagne. Donc, que penser de ces équipes? Alors là, c'est pareil, je vous laisse regarder les classements à 7. On voit que pas mal d'équipes, c'est très excessivement différent. Donc, déjà, le Canada, je ne me rappelais plus chez les hommes, mais ils n'y sont pas. Déjà, ça prouve que le niveau est complètement différent. Alors que l'Argentine, eux, ils ont une équipe masculine. Et on voit pareil, par rapport aux phases qualificatives, on voit que c'est différent. On voit par exemple que l'Australie a dû se qualifier par le biais de championnat pour prouver que le niveau est déjà bien moins grand que chez les féminines. Et au contraire, les Fidjiens, eux, sont sortis grands vainqueurs des 7 World Series. On voit que c'est quand même un sport un peu pas différent, mais on voit qu'il y a eu pas mal d'efforts faits là-dessus. Mais d'ailleurs, par rapport au... où c'est que j'en étais ? Par rapport au World Rugby 7 Series, si je prends rien que ça, par exemple, j'ai la Nouvelle-Zélande qui gagne quasiment tout le temps. Les Fidjiens ont commencé à en gagner en 2005, l'Afrique du Sud en 2008-2009, les Samoans en 2009-2010, ouais, les Samoans ne sont pas présents dans cette Coupe du Monde. Et on voit que les Fidjiens ont commencé à se refaire comme il faut, donc pour 2014-2015, donc c'était les phases qualificatives, et pour 2015-2016, c'était les Fidjiens aussi, avec une étape en plus d'ailleurs. Parce qu'on était souvent sur 8 ou 9 étapes au World Rugby 7. Donc je reviens à mes bonhommes. Donc on avait dans la poule A, Fidji, États-Unis, Argentine, Brésil. Poule B, Afrique du Sud, Australie, France, Espagne. Et poule C, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Kenya et Japon. Alors, les Fidjiens sont sortis grands vainqueurs de la poule A avec 3 matchs. Gagné juste derrière l'Argentine, tout de même, pas mal, avec 2 victoires, 1 défaite, les États-Unis, 1 victoire, 2 défaites, et le Brésil, 3 défaites. Le Brésil qui a d'ailleurs qui a des joueurs français qui ont la nationalité brésilienne et française. Il y a, bon, sur ces 3 joueurs, il y en a 2 qui viennent d'Albi, voilà, c'est des jumeaux qui se débrouillent bien, même si le goal average fait un peu peur, pique un peu, donc 42-27-16, on voit que c'est assez serré quand même entre toutes ces équipes, et moins 85, voilà, pour le Brésil, mais une équipe qui progresse. Bravo. Donc on avait États-Unis, Argentine, 14 à 17 pour les Argentins, 40 à 12 entre les Fidji et le Brésil, États-Unis, Brésil, 26 à 7, Fidji, Argentine, 21 à 14, et Argentine, Brésil, 31 à 0, et Fidji, États-Unis, 24 à 19. Poule B, on avait Afrique du Sud, très bonne équipe, eux, la France, l'Australie et l'Espagne. Alors tout le monde a fini à 7 points, parce que tout le monde a 2 victoires, une défaite, sauf bien évidemment les Espagnols, voilà, sinon c'est pas possible. Donc on avait 43, 12, 4 et moins 59 pour l'Espagne. Donc Australie, France, 14 à 31. Afrique du Sud, Espagne 24 à 0. Australie, Espagne 26 à 12. Afrique du Sud, France 26 à 0. France, Espagne 26 à 5. Afrique du Sud, Australie 5 à 12. Vous voyez, c'est ça qui est bien aussi au rugby à 7. C'est qu'il y a pas mal de. Selon les durées des étapes, parce que des fois, il y a pas mal de matchs sur les mêmes week-ends. Donc, des fois, il y a des petits exploits. Donc, déjà, on peut compter pas l'exploit, mais la bonne entrée de la France contre l'Australie, qui a toujours eu du mal. Parce que nous, je ne sais plus comment on est classé, la France, mais je crois qu'on n'est pas très bien classé, pardon, chez les hommes. Déjà, on a fait un petit exploit contre l'Australie. Parce que je pense que c'était. Les Australiens ont toujours un peu de mal. Cette saison, ils avaient du mal. On a vu que, voilà, la France pouvait gagner par à-coup. Et on voit par exemple que l'Australie était capable de battre l'Afrique du Sud, qui a quand même un niveau bien au-dessus d'eux, je trouve. Donc c'est pas mal. Et à la fin, on passe à la poule C. Voilà, donc on avait la Grande-Bretagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Kenya, en termes de classement. Donc Grande-Bretagne, 3 victoires. Le Japon, 2 victoires avec un petit. Pas un petit, un vol contre eux, contre la Grande-Bretagne. La Nouvelle-Zélande, 1 victoire, 2 défaites. Et dernier, le Kenya. Et donc, goal average, 28, 24, 19 et moins 71. Donc, Grande-Bretagne, Kenya, 31 à 7. Nouvelle-Zélande, Japon, 12-14. Gros exploit des Japonais qui, eux, chez les hommes, commencent à bien être classés, commencent à avoir une bonne équipe. Ça fait 2-3 ans. Ils sont en train de. Voilà. Bon exploit. Grande-Bretagne, Japon, 21-19, qui a été un match un peu douteux pour les Japonais. Nouvelle-Zélande, Kenya 28 à 5, 7 à 31 pour le Japon et Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne 19 à 21. On voit que la Nouvelle-Zélande, ils ont été toujours bien classés, je vous le dis par rapport au classement World Series, mais on voit que cette année ils ont eu excessivement du mal et ça s'est vu dans ce classement olympique, quoi. Après. Je vais maintenant vous faire les quarts de finale. Donc on avait Fidji-Nouvelle-Zélande 12 à 7, Japon-France 12 à 7 aussi, Grande-Bretagne-Argentine, c'est après prolongation, 5 à 0, et Afrique du Sud-Australie 12 à 5. Là, c'est là on voit le vrai niveau de l'Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On voit pareil que les Fidjiens, vous allez voir, ils ont commencé tranquillou en fait. Sont pas emmerdés. En fait, c'est l'équipe qui fait tout à l'envers, donc c'est l'équipe qui est montée en puissance au fur et à mesure. Ce qui est un peu bizarre. C'est la première fois que je vois ça, parce qu'ils ont fait des matchs de classement tranquillou, mais voilà. Vous verrez, ils ont monté à. Japon-France, et pas grand-chose à dire sur ce match. Je pense que la France aurait pu gagner, hein, très légitimement, mais les Japonais ont montré très belle qualité. C'est une équipe, eux, qui a vraiment progressé, voilà, donc à voir sur le long terme. Grande-Bretagne, Argentine aussi, c'est passé, pas grand-chose, hein, le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, il n'y aurait rien à dire, et puis Afrique du Sud, Australie, voilà, c'était un match logique. Après, on a eu en demi-finale Fidji-Japon 20 à 5, donc les Fidjiens se sont imposés logiquement contre le Japon. Après, les Japonais ont pas mal de volume de jeu aussi. Eux, ils ferment vraiment jamais le jeu. Ils essaient toujours de remonter le terrain, ils essaient toujours de jouer. Ils ont une tactique qui est assez intéressante. Ils jouent un peu comme l'Australie chez les féminines, à peu près. Ils portent beaucoup le ballon. Ils n'ont pas des joueurs pas très perforants. Mais ils décident toujours de jouer. Voilà, vraiment de jouer. Donc je pense que ça pose beaucoup de problèmes aux Fidjiens qui sont... voilà. Dès qu'ils tombent les Fidjiens sur des équipes casse-briques, eux, c'est là qu'ils cartonnent, parce que vous allez le voir en finale, ils sont tombés contre l'équipe de Grande-Bretagne qui joue un peu casse-briques. L'Angleterre s'est fait démonter, quoi, parce que c'est là, dans ce type de jeu-là, c'est les meilleurs, quoi. Et après, du coup, on avait la surprise, donc Grande-Bretagne, Afrique du Sud, donc on a eu 7-5, parce qu'il a plu, voilà, et l'Afrique du Sud, eh ben, bizarrement, l'Afrique du Sud, même s'ils ont des joueurs très costauds, ils aiment beaucoup, pareil, porter le ballon et jouer les intervalles, ils ont très bons joueurs pour ça, et il a plu, ils se sont retrouvés bien emmerdés, quoi. Et donc la finale, on a eu 41-7, entre les Fidjiens et la Grande-Bretagne, donc les Fidjiens ont fait sauter le bouchon de la Grande-Bretagne. On n'a pas vu de différence entre les, enfin, on a vu que la différence entre les deux équipes. Et médaille de bronze, donc pareil, logique, le Japon qui a commencé à baisser pavillon par rapport aux exploits qu'ils avaient fait des 3 jours. Donc on a eu 14-52 contre l'Afrique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud qui doit regretter énormément de ne pas avoir joué sa finale contre les Fidjiens. Je pense que c'était les seuls à pouvoir leur poser réellement des problèmes par rapport à ce qu'ils ont montré. Parce que c'est une équipe, voilà, c'est une équipe qui joue, ça joue réfléchi. Voilà, ça me fait penser au Japon, ça réfléchit un peu avant de jouer, c'est très structuré comme jeu, donc c'est ça qui pose le plus de problèmes aux Fidjiens. Après, donc pour la cinquième place, on avait Nouvelle-Zélande-France 24-19 et Argentine-Australie 26-21. Et c'est, pour la cinquième place, ça s'est fini serré 17-14 entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Et pour la septième place, France-Australie 12-10, donc les Français 7e, voilà. Après, pour la 9e place, on avait États-Unis-Brésil 24-12 et Espagne-Kenya 14-12. Et donc, c'est les États-Unis qui sont 9e avec 24-12. Pour les 24-12, voilà, États-Unis-Espagne. Et 11e place, Brésil-Kenya 0-24 pour les Kenyans. Donc, voilà. Donc, pour le classement final, on a Fidji, Grande-Bretagne, Afrique du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande, Argentine, France, Australie, États-Unis, Espagne, Kenya et Brésil. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tournoi olympique ? Déjà, d'une, je me suis régalé. Pour de vrai. C'est un sport... c'est un bon sport, malgré tout ce qu'on en pensera. Ça fait bon, c'est très rugby-spectacle, hein, quand même. C'est très... C'est un sport qui est quand même très spectaculaire, mais bon, en même temps, est-ce qu'on en veut vraiment aux gens ? Parce que c'est pas un match où il y a trop de cartons, on n'est pas tombé dans le rugby américain où pour faire de la place pour de la pub ou de la place pour que les gens ils aillent chercher du popcorn ou une bière. Donc pour l'instant, ça va. Même si voilà, ça reste un sport très, très convivial, je vous laisse regarder les images. Le public est très folklorique, on va dire. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai vu beaucoup de qualité des deux côtés. Finalement les champions ont été les équipes qui proposaient le jeu le plus intelligent et structuré. Chez l'Australie on voit que ce jeu est un peu plus réfléchi et cadré à l'anglo-saxonne. Et chez les Fidjiens on voit qu'ils sont clairement au-dessus parce qu'ils ont des qualités individuelles impressionnantes. On peut pas dire le contraire, ils font des passes après contact de fou. Ils ont un système de jeu où il faut avoir une caisse énorme, mais vraiment une caisse énorme pour suivre, parce que chaque joueur est à peu près suivi par un ou deux joueurs, donc dès qu'un joueur se fait plaquer, un autre vient dans l'axe pour récupérer le ballon. Le but est de faire le moins de ruck possible, donc le moins d'intérêt le ballon, pour pouvoir permettre une bonne continuité du ballon, ce qui induit forcément de suivre chaque porteur de ballon et de savoir faire le geste juste derrière pour pas se faire soit contrer, soit perdre le ballon bêtement. Ça, pour ça, ils ont été... contre la Grande-Bretagne, ça a été un récital. C'était impressionnant, cette capacité qu'ils ont. L'Afrique du Sud, c'est à peu près le même topo, un petit peu moins quand même. On sent que c'est une équipe qui a un énorme potentiel, ils ont des gros joueurs. J'espère pour eux qu'ils seront, dans les années qui viennent, ils seront récompensés avec des victoires en tournoi aussi, parce que c'est une équipe qui me plaît bien. Après, bon, l'Angleterre aussi, ça fait, voilà, ils sont bien calés là-dessus, je ne me fais pas de mouron pour eux. Le Japon, une équipe qui progresse bien. Je pense que, bon, après, la Nouvelle-Zélande, c'est la déception de ce tournoi, la déception sur la saison en général. Ils ont des très bons joueurs. Après, à eux, à voir. Je pense qu'ils ont des réglages à faire. À voir si. Je pense qu'ils s'amélioreront. Voilà. L'Argentine aussi, ils sont allés chercher des bons joueurs à 15 pour se solidifier. À la différence de la France, qui eux n'ont pris que des joueurs, sauf Sofiane Guitoun, mais qui n'a pas joué, que des joueurs spécialistes 7. Voilà, c'est la France qui monte, qui grappille des parts dans le gâteau du 7 masculin. Ils sont un peu plus en retard que par rapport aux féminines, je trouve. Où les féminines, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment une base solide pour composer. Ils sont pas mal jeunes, je trouve. Donc, il y a pas mal. Alors que la France, voilà, il va commencer à y avoir du turnover. Il y a commencé à certains joueurs qui commencent à être âgés. Mais je pense que la FFR a compris qu'il fallait investir là-dessus et qu'il y avait une bonne marge de manœuvre. Après, on a l'Australie, donc États-Unis. L'Espagne aussi, c'est bien. Le Kenya aussi. Le Kenya a fait pas mal le yo-yo. Voilà. Et le Brésil, voilà, c'est l'équipe qui monte bien. À voir si l'effort va continuer d'être fait là-dessus aussi. Parce qu'avec la. Ils voulaient pas être trop ridicules. Enfin, se prendre des volets pendant. Leur jeu à eux. Donc à voir si ça continue. Sinon, ils risquent d'être dépassés dans les championnats locaux par l'Uruguay ou voire même surtout l'Argentine. Mais peut-être par l'Uruguay parce que ça va débloquer des places, je pense, dans ce milieu-là. Donc à voir, voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast qui est plutôt court. Hein. Il n'a pas été un peu court et un peu bordélique. Il a été fait pas forcément. Si, avec soin, mais j'ai pas synthétisé tous les éléments. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un hors-série. Je pense pas qu'il y en ait un avant quelques temps. Et je vous dis surtout à très bientôt pour un épisode régulier de 15 bras 15 jambes. Ça, je vais m'y coller par contre. Et voilà, écoutez, à très bientôt.
Ah, mais on est bien rigolé.